France Inter.
Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, une élection cousue de fil blanc. Les Russes ont commencé à voter pour élire leur président, qui ne peut être que Vladimir Poutine. Aucun autre scénario possible, avec ou sans fraude électorale. Ce sera sans doute avec, comme à chaque élection. Explication à Moscou dans un instant, puis on en reparle avec vos invités à 8h20, Ali et Marion.
Avec nous en studio, la politologue Anna Colin-Lebedev, la journaliste Ksenia Bolshakova et en duplex depuis Moscou, notre correspondant Sylvain Tronchet.
Vos questions, vos réactions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
D'ici là, nous serons à Berlin où le chancelier allemand attend Emmanuel Macron aujourd'hui pour reparler d'Ukraine et de la Russie et des positions dures du président français. Il s'en est expliqué hier soir à la télévision, on va l'entendre. On verra que les Français vont moins partir en vacances cet été pour la première fois depuis la fin du Covid. Et puis préparez-vous, les choristes ont 20 ans et la chanson du film est devenue un véritable classique des chorales.
France Inter.
Plus ou moins 80%. Voilà une élection dont on connaît déjà le gagnant et même son score. À quelques points près, Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 24 ans. Qui n'a pas fait campagne? Pourquoi faire? Qui n'a pas d'opposant? Les trois candidats face à lui sont des faire-valoir. Il sera donc déclaré vainqueur dimanche soir au terme de 3 jours de vote de l'extrême-orient russe à l'enclave de Kaliningrad en passant par les territoires occupés d'Ukraine. Et Sylvain Tronchet, pour doper le score de Poutine, le pouvoir pourra toujours trafiquer les urnes.
La fraude électorale est une vieille tradition en Russie. Chaque scrutin a été accompagné de son lot de scandales, d'irrégularités avérées qui n'ont jamais remis en cause le résultat final. Mais cette année, cela risque d'être encore pire, estime Stanislav Andreïchuk de l'organisation Golos, notamment à cause du fort développement du vote électronique.
Il est impossible de surveiller le vote en ligne, car personne n'a vu le code du système. Vous devez croire ou ne pas croire les chiffres qui apparaissent à l'écran, mais la pratique montre qu'il vaut mieux ne pas les croire.
Des millions de Russes vont voter électroniquement cette année. Pour y parvenir, le pouvoir offre des prix à ceux qui choisissent ce moyen. Et dans les grandes administrations et les entreprises publiques, on impose aux salariés de le faire, comme nous l'a confirmé Anastasia.
Je travaille dans une organisation publique. Nous sommes donc obligés de voter. Et ceux qui sont inscrits à Moscou sont obligés de voter électroniquement sur le site de la ville.
Cette année, la présidentielle se déroulera sur 3 jours, ce qui veut dire que les urnes dormiront 2 nuits à l'abri des regards. Et pour la première fois, il n'y aura pas d'observateur indépendant. Certains experts prédisent que cette élection sera la plus opaque et la plus falsifiée jamais organisée en Russie. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Le régime de Vladimir Poutine, adversaire de la France, Emmanuel Macron l'a longuement expliqué hier soir sur TF1 et France 2 après plus de 2 ans de guerre en Ukraine. Voilà pourquoi il a durci sa position en laissant planer l'éventualité d'une intervention de militaires occidentaux sur le terrain.
Qu'est-ce qui se joue en Ukraine? Une guerre qui est existentielle pour notre Europe et pour la France. Nous avons mis trop de limites, si je puis dire, dans notre vocabulaire. Nous ne sommes pas dans l'escalade. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Simplement, il faut être clair, nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc, il nous faut lucidement regarder la situation, et il nous faut, avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif, qui est que la Russie ne gagne pas.
Emmanuel Macron immédiatement critiqué par les oppositions qui l'accusent de souffler sur les braises et d'utiliser la guerre en pleine campagne pour les européennes. La suite, c'est ce vendredi à Berlin où le chef de l'État est donc attendu par un chancelier allemand échaudé par sa position sur le conflit. Les deux hommes ont rendez-vous avec le président polonais pour reparler d'Ukraine et tenter d'apaiser les tensions entre la France et l'Allemagne. Correspondance à Berlin, Sébastien Baer.
Il y a d'un côté un chef de l'État, Emmanuel Macron, souvent perçu en Allemagne comme un va-t-en-guerre, adepte des déclarations tapageuses, et de l'autre, le chancelier Olaf Scholz, réputé prudent et réservé et qui redoute une escalade dans le conflit. L'hypothèse formulée par Emmanuel Macron d'envoyer en Ukraine des troupes au sol a surpris et agacé Berlin. Depuis, le malaise s'est installé entre les deux dirigeants, avec des divergences étalées sur la place publique, ce que regrette Wolfgang Ischinger, l'ancien ambassadeur d'Allemagne aux États-Unis, interrogé sur la chaîne Welt TV.
Si l'Allemagne et la France affichent leur désaccord devant les Russes, où pensez-vous que les bouchons de champagne vont sauter? Pas à Washington, ni en Italie, mais à Moscou.
L'entretien bilatéral prévu en milieu de journée entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz devrait aider à aplanir les différends, mais Mark Ringel, le directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, relativise les tensions.
C'est pas si grave que ça, parce qu'il y aura toujours des discussions, toujours peut-être aussi des conflits. C'est le signe des démocraties vives. Même s'il y a des discussions qui sont des discussions très très stratégiques, très très difficiles, en fin de compte, on arrive toujours à trouver une solution.
Emmanuel Macron et Olaf Scholz se sont au moins d'accord sur l'essentiel, la Russie ne doit pas gagner la guerre. Reste à trouver une réponse commune à cette question, comment aider l'Ukraine à l'emporter ? Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
D'une guerre l'autre, dans le nord de la bande de Gaza, le Hamas accuse l'armée israélienne d'avoir tiré cette nuit sur une foule qui attendait de la farine. 20 personnes auraient été tuées. Pendant ce temps-là, le président palestinien Mahmoud Abbas, qui exerce un pouvoir limité en Cisjordanie occupée, a nommé un nouveau premier ministre. Il s'appelle Mohamed Mustafa, économiste et fonctionnaire international. Et puis la liesse dans les rues de Dakar cette nuit, à 10 jours de l'élection présidentielle au Sénégal, le pouvoir a libéré Ousmane Sonko et son bras droit, candidat à la succession de Macky Sall, l'opposant anti-système, était en prison depuis l'été dernier.
Les militaires aiment donner des noms à leurs opérations. Voici donc l'opération Coubertin.
Qui s'achève aujourd'hui sur la base aérienne de Villacoublay, liée au jeu, forcément. C'est un exercice grandeur nature, organisé par l'armée de l'air pour être en mesure de contrer d'éventuelles attaques de drones pendant les Jeux Olympiques. Tous les scénarios ont été anticipés. Reportage signé Ariane Grissel.
Les drones qui approchent sont petits, mais suffisant pour transporter par exemple des explosifs.
Et là on en a un qui revient vers nous, deux qui reviennent vers nous.
Il faut donc les repérer tôt sur le terrain. Les opérateurs auront sous les yeux une carte avec en temps réel tous les drones en vol. Un logiciel baptisé SAP, Situation Aérienne Partagée, que nous présente le lieutenant-colonel Thomas.
Je vais avoir une base de données de drones accrédités. Donc quand j'ai un drone qui apparaît, SAP va le comparer avec cette base de données. S'il n'est pas associé à un plan de vol, s'il n'est pas associé à une accréditation, il va suggérer à l'opérateur de le traiter comme un drone qui n'a rien à faire là.
Et donc le mettre hors d'état de nuire, le général Arnaud Bourguignon est le responsable de la sécurisation des airs pendant les Jeux.
Les actions de destruction, jusqu'ici on utilisait uniquement du brouillage et on est en train de finir de développer certains effecteurs comme le drone qui va aller capter le drone malveillant dans un filet, le laser anti-drone et également un autre armement à énergie dirigée qui est plus lui du micro-ondes qui va griller les systèmes électroniques des drones.
Les fusils brouilleurs envoient donc des ondes vers les drones. Et
donc ce que vous allez voir, c'est un drone qui arrive et qui à un moment va s'immobiliser, comme s'il se mettait en vol stationnaire.
Une quinzaine de dispositifs anti-drones seront répartis sur les différents sites à surveiller. Ils sont aussi équipés d'appareils qui doivent permettre de remonter jusqu'aux pilotes des aéronefs.
Reportage Ariane Grissel. En décembre dernier, le président de la commission de défense du Sénat estimait que la lutte anti-drone n'était pas au niveau en France. Et pendant les Jeux, partir ou rester ? Les Franciliens ont apparemment plus envie que jamais de vacances loin de la capitale, alors que globalement, les Français partiront moins cet été. Philippe Lefebvre, l'euphorie des années post-Covid est retombée.
Pour la première fois depuis 3 ans, toutes les enquêtes et tous les sondages publiés ces jours derniers le confirment. Nous serons moins nombreux l'été prochain à partir en vacances. C'est ce que constate notamment Didier Arino, le directeur du cabinet ProTourisme.
Une baisse de 2 points par rapport à l'an passé. On peut dire que c'est la fin des vacances à tout prix et des vacances quoi qu'il en coûte, car le budget consacré aux vacances est aussi en baisse de 7% cette année par rapport à l'an dernier. C'est un retournement de tendance après plusieurs années durant lesquelles les Français ont privilégié au maximum les vacances sur d'autres postes.
Inflation et chômage expliqueraient en partie cette baisse. Toutefois, il y a une exception, l'Île-de-France, où le taux de départ lui va augmenter l'été prochain, sans doute en partie à cause de l'effet JO. C'est ce que confirme Marianne Chandernagor, la directrice du Salon mondial du tourisme.
Nous, on constate que leur souhait, c'est de partir encore plus à l'étranger que ça n'était le cas l'année dernière, puisqu'il y a 10% de plus des Franciliens qui veulent partir à l'étranger, ce qui amène quand même une statistique à 78% des répondants qui veulent partir à l'étranger.
Et ProTourisme s'attend à une progression de 3% du nombre de Français qui choisiront l'étranger pour leurs prochaines vacances, et notamment les pays du bassin méditerranéen comme l'Italie, l'Espagne et la Grèce.
Philippe Lefebvre, jusqu'à 50 prisons et 75 000 euros d'amende et une peine d'outrage, comme pour les forces de l'ordre. Ceux qui agressent les soignants pourraient être plus durement sanctionnés par cette proposition de loi adoptée hier à l'Assemblée et qui doit maintenant être examinés au Sénat. Attention, ils sont là et ils dévastent tout sur leur passage. Des hordes de sangliers sèment la terreur dans la banlieue de Périgueux en ce moment. Le week-end dernier, la préfecture en a compté 150 en une seule nuit. Marc Bertrand, ils sont une quarantaine à dévaster, à semer la terreur, donc dans ce quartier pavillonnaire de Sanilhac.
Jean-Pierre est en train de bricoler dans sa petite périgourdine au volet turquoise. Les sangliers ont ravagé son gazon, retourné les clôtures. La horde, il ne l'a pas vue de ses yeux, mais ses copains chasseurs lui ont raconté.
Ils en ont compté 42. 42 sangliers, ils ont compté. Une troupe. C'est un truc impressionnant. On est tous embêtés dans le secteur. J'en ai trouvé un là, dans ma cour, là, qui faisait 40-50 kilos. J'ouvre la porte, je le vois là, mais il n'a pas eu peur. Hein. Je lui faisais peur, il ne bougeait pas.
La horde niche dans la combe, cette petite vallée pleine de broussailles. Elle sort à la nuit tombée. Elle a même creusé ses propres chemins. Pas de chance, le jardin de Jean-François est sur leur route.
Et ici, là, à 20 mètres de chez moi, on a toujours un passage de 20-25 sangliers et c'est constant. Fort heureusement, les chasseurs sont là parce que sans quoi, ça serait un véritable désastre.
Dans le quartier, tout le monde n'est pas d'accord. Pascal promène ses deux boxers. Elle n'aime pas entendre les tirs des chasseurs.
C'est difficile de se promener quand il y a des battues. Même sur le bord des routes. Et c'est pas le sanglier qui me fait peur. Bon, d'accord, dans les cultures de maïs et compagnie, je comprends. Mais là, dans un bois, ça le nettoie. Qu'on les stérilise, oui, mais qu'on les tue, pourquoi faire ?
Elle se souvient d'un incident il y a quelques années. Une balle qui avait traversé 1 kilomètre pour se ficher dans le mur d'une maison.
Reportage France Bleu Périgord signé Marc Bertrand. En Californie, ce sont des abeilles qui se sont invitées en plein match du Masters 1000 d'Indian Wells. Alcaraz face à Zverev et cet essaim d'abeilles qui débarque subitement sur le court. Le match a été interrompu pendant 2 heures. Un spécialiste appelé à la rescousse. Reprise et victoire de l'Espagnol qualifié pour les demi-finales. Quel adversaire pour le PSG ? On attend le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions aujourd'hui. Hier soir, en Ligue Europa, l'OM a décroché son ticket malgré une défaite 3-1 à Villarreal. Et puis Lille, en quart de finale d'une compétition européenne. C'est une première pour le club en Ligue Europa Conférence, après un match nul à domicile, un partout, face aux Autrichiens du Sturm Graz. Lille, où l'on va dévorer des images. À partir d'aujourd'hui, c'est le festival Sérimania qui commence. 400 séries du monde entier à visionner, 26 en avant-première, dont 6 françaises qui n'ont rien à envier aux autres. La série Made in France se porte bien, dit Frédéric Lavigne, directeur artistique du festival.
Il faut se le dire, quand on a commencé en 2010 au Forum des Images avant de venir à Lille en 2018, au début sur la compétition française, on avait un peu du mal à trouver 6 titres comme ça extrêmement ambitieux, passionnants, parce que la télévision n'avait pas autant misé sur les séries. On était un peu en retard par rapport à d'autres pays. Et là, depuis quelques années, c'est même les plus grandes salles qui se remplissent le plus vite dans le festival. On a évidemment cette série française en compétition internationale dans l'ombre, mais Le Monde n'existe pas avec Neil Schneider. On a Machine avec Joey Starr, Ourika, une création sur une idée de Booba. Enfin, on a beaucoup, beaucoup de séries qui sont extrêmement bien réalisées, notamment en France, et avec tous les acteurs du cinéma qui s'y sont mis.
Voilà, Frédéric Lévin, directeur artistique du festival Sérimania, avec vous tout à l'heure, Marion. C'était à 6h20. 85 000 participants sont attendus et l'invité d'honneur cette année de Sérimania, c'est Patricia Arquette. Voilà pour finir qui ne va pas nous rajeunir. À l'époque, on ne passait pas sa vie sur les plateformes devant les séries. Et le film Les Choristes faisait plus de 7 millions d'entrées en France au cinéma. C'était il y a 20 ans, mais oui. Et vous l'avez déjà, c'est pavlovien quand on entend parler des choristes. La chanson, évidemment, tube des chorales aujourd'hui encore. Les adolescents chanteurs de ce collège de Waterloo dans le Nord l'adorent, Victor Vasseur.
Alors, groupe 1, vous êtes guidé par Valentin. Vous êtes prêts ? Chantez bien fort, on reprend du début. 1, 2, 3 et...
Alors, moi, je m'appelle Émilie De Waal et j'ai 13 ans. Ce morceau, il est unique en son genre. Il est parfait. Il exprime des sentiments que nous, à la chorale, on essaye de cacher de ce qui se passe hors dehors du collège.
Mia, chante bien proche du micro. Rapproche-toi du micro. Ok, c'est parti. On refait du début. Là, on y est presque.
Je trouve que les harmonies, en plus, elles font vraiment belles. C'est une chanson qui est vraiment agréable à chanter parce qu'il y a un gros travail à faire dessus et donc c'est intéressant.
Juste pensez tous à bien pousser un tout petit peu plus pour que ce soit excellent, ok ? On le fait une fois avec la piste audio.
Vois sur ton chemin, gamins oubliés.
Alors, je m'appelle Timothée Storm, je suis professeur d'éducation musicale au collège Saint-Joseph.
Ils m'ont souvent donné des frissons quand je les ai entendus chanter cette chanson. Elle a été super bien écrite, c'est un chef-d'œuvre. C'est des chansons qui sont sorties il y a 20 ans et qui plaisent toujours autant à l'heure actuelle, peut-être même encore plus. Je vois franchement comment mes élèves accrochent, c'est vraiment incroyable.
Sentier de gloire, sentier de gloire.
Voilà, vous l'avez dans la tête pour la journée. Il y a
merci
des écoles, hein, ceux qui adorent et ceux
non,
qui
non, j'avais
détestent.
Des boules
caisses. C'était le journal.
Oui, mais Marie-Pierre adore.
Florence Paracolos. Nous, on a chanté quand même.
Voilà.
Il est 8h15 sur Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Marie-Pierre Planchon, la pluie revient dès ce matin.
Oui, avec l'arrivée de cette perturbation d'hier qui s'enfonce dans le pays, qu'on retrouve ce matin de la Bretagne ou Charente en remontant vers la région parisienne, au Hauts-de-France, au Grand Est, au nord des Alpes, sans oublier le vent de sud-ouest est déjà soutenu près des côtes de la Manche ce matin. Puis sur la Nouvelle-Aquitaine, vous passerez votre matinée entre quelques éclaircies et des passages nuageux porteurs d'averses. Puis des Alpes du Sud aux Pyrénées, à la Corse, eh bien ces régions restent à l'écart sous un ciel souvent voilé, dans une douceur généralisée. Le jour s'élevait avec 13 à Lille, Paris, mais aussi à Blois comme à Quimper ou Saint-Jean-de-Luz. Vous avez dit à Calvi et Montpellier.
Et le ciel va redevenir instable cet après-midi.
Oui, car de l'air froid en altitude va s'engouffrer derrière la perturbe. Et dans ces cas-là, ça crée un conflit de masse d'air avec la douceur en basse couche. Et ça engendre cette instabilité sous forme donc d'averses, mais surtout des orages, du grésil et des bourrasques jusqu'à 70 km/h de la Bretagne au bassin parisien. Hauts-de-France, sous un mercure en légère baisse, mais on sera encore 3 à 4 degrés au-dessus des normales, avec 12 à Calais, 15 à Antibes comme à Lille ou Saint-Brieuc. Il fera 16 à Paris comme à Bastia, 17 à Dijon, Bourges, comptez 19 encore à Toulouse, 21 à Narbonne, pour aller, Marion, vers un week-end tout doux, mais sous un ciel bien chargé au nord et plus ensoleillé sur les régions du sud, en se rappelant que...
Ah.
Écoutez bien, taille tôt, taille tard, mais taille toujours en mars. Et surtout qu'à la mi-mars, le coucou est dans l'épinard.
Merci Marie-Pierre Planchon. Et merci à vous d'écouter Inter, il est 8h17, géopolitique.